Bonjour, mon nom est Valérie Trépanier. Je suis étudiante dans un prix universitaire en sciences humaines. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Madame Juliane Lalonde. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci. Et toi?
Ben oui, merci. Au fond, pour résumer Juliane Lalonde, c'est une titulaire d'un doctorat en psychologie clinique de l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi psychologue en pratique privée. Elle enseigne au Cégep de Saint-Jérôme depuis 2000. Puis, présentement, elle complète sa thèse de doctorat à partir des théories freudiennes. Elle a aussi travaillé en psychiatrie, ce qui lui mène un bagage en psychologie très grand. Elle a voyagé en Autriche, était dans la maison de Freud, puis elle a plein de livres super intéressants en sa présence qui m'ont inspiré l'entrevue. Donc aujourd'hui, pour mon sujet dans le cours de démarche d'intégration en sciences humaines, mon sujet c'est l'Autriche. Donc le lien avec Madame Lalonde et l'Autriche, c'est les théories freudiennes. Dans le fond, Madame Lalonde, décrivez-moi qui est Freud généralement pour comprendre qui est cet homme.
Freud, enfin on peut dire beaucoup de choses sur Freud. La première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est que Freud n'avait pas décidé, il s'est pas levé un matin pour inventer la psychanalyse. C'est un médecin, c'est un neurologue. Lui avait commencé sa carrière en faisant des recherches sur, entre autres, les effets anesthésiants de la cocaïne dans la chirurgie de l'œil, mais il s'est intéressé au système nerveux de petits batraciens, de petits poissons aussi. Fait qu'on est loin de l'inconscient, de l'analyse des rêves. C'est un peu une suite de hasards, de toutes sortes d'événements dans sa vie qui vont faire en sorte que, notamment, il va rencontrer une fille très belle, mais qui vient d'un milieu bourgeois, alors que c'est pas son cas. Les parents sont pas d'accord à ce que leur belle-fille, brillante et tout, fréquente un petit médecin d'origine juive, qui est pas du même milieu social que le leur. Et donc, pour faire beaucoup de sous, Freud va délaisser la recherche pour la clinique. Et l'autre événement, c'est que, puis ça, on n'en parle pas souvent, c'est que à l'époque de Freud, à Vienne, il y avait beaucoup de hystérie de conversion, trouble qu'on voit plus aujourd'hui, en tout cas plus de manière aussi spectaculaire, parce que la répression au niveau de la sexualité pas victorienne, puis aujourd'hui, ça se compare même pas. Puis là, ben, ce qu'on cache souvent dans l'histoire de la psychanalyse, c'est que c'est ça, il y a Martha, donc sans Martha, les bâtons dans les roues de ses parents, aurait-il fait de la clinique? On n'est pas certain. Ensuite, comme il y avait de ces hystériques-là, qui étaient des jeunes femmes, qui étaient dérangeantes parce qu'elles voulaient se scolariser, parce qu'elles voulaient épouser qui elles le souhaitaient, elles n'étaient pas obéissantes, elles voulaient avoir le droit de vote, toutes des choses très, très scandaleuses pour les jeunes d'aujourd'hui, que c'était scandaleux. On ne voulait pas que nos filles, de la bourgeoisie, puis même de l'aristocratie, aillent consulter un médecin de notre classe sociale, parce qu'on en avait honte. Donc, on les amenait voir le petit médecin juif. Donc, lui se retrouvait avec une clientèle de jeunes hystériques, il ne sait pas trop comment les traiter, et il tombe sur un article de Jean-Martin Charcot, parce que Freud lit le français, il parle plusieurs langues.
Quand même impressionnant.
Très cultivé. Mm. La légende dit qu'il lisait Shakespeare en anglais alors qu'il était enfant. Mais bon, donc il lit un article de Charcot qui fait ses fameuses démonstrations sous hypnose avec des hystériques de conversion où là, les symptômes psychiques se manifestent, mais les symptômes somatiques sont relevés. C'est-à-dire qu'un bras qui était paralysé, par exemple, se remet à fonctionner. Dans le cas des aveuglements hystériques, la personne se remet à voir. Donc, pour un neurologue, on peut comprendre que c'est complètement fascinant qu'on puisse comme guérir ou récupérer des fonctions alors qu'il n'y a pas de lésion organique ou que des fonctions organiques puissent être perdues sans lésion.
Quand même un gros progrès en psychologie.
Mais d'ailleurs, il y a plusieurs historiens qui situent la naissance de la psychologie avec la naissance de la psychanalyse. Fait que là, on est comme dans l'intro de ça. Donc, Freud découvre ça, il va aller à Paris, il va aller voir Charcot. Et on sait même où est le petit appartement qu'il louait pour aller se former auprès de Charcot. Lui, il revient à Vienne, il essaie l'hypnose lui aussi avec ses patientes, puis il va délaisser l'hypnose rapidement pour construire l'appareil psychanalytique. Il n'avait pas décidé, lui, en tout cas, évidemment, j'étais pas là, mais la naissance de la psychanalyse, c'est un peu par accident.
Croyez-vous que, dans le fond, cette naissance-là de cette théorie a mené une grande influence aujourd'hui, dans la psychologie d'aujourd'hui?
C'est la naissance de la psychologie. La psychanalyse est une des grandes écoles. Les autres écoles, souvent, se sont construites soit en opposition, soit en complémentarité avec la psychanalyse. C'est sûr que sa contribution à la psychologie là, est indéniable et fondamentale.
Et pour vous, pour vos intérêts, qu'est-ce qui vous passionne principalement chez Freud?
Moi, je le trouve attachant. Je trouve que c'est un personnage qui est plein de contrastes, plein de paradoxes, puis C'est sûr, on n'était pas là, on n'a pas de certitude, puis on a juste des témoignages, mais justement, dans, chez les autres psychanalystes, Erikson, entre autres, qu'on étudie beaucoup en psychologie, il fait même des blagues, là, il taquine Freud dans un de ses textes. Mais c'est ça,
je... Vous sentez un lien amical un peu.
Oui, puis c'est sûr que sur les photos, il a l'air sévère, mais quand même, c'était la mode de l'époque. Mais c'était quelqu'un qui avait un bon sens de l'humour, en tout cas, c'est ce que ses contemporains nous rapportent. Puis moi, ce qui m'a beaucoup fascinée aussi, c'est quand je me suis mise à observer ses photos, je trouvais qu'il y avait une profondeur dans son regard. C'est aussi quelqu'un qui était très cultivé, qui aimait l'art, qui aimait la mythologie.
Vous auriez aimé l'avoir comme ami?
Moi, j'aurais adoré faire partie de son cercle, d'autant plus qu'il incluait les femmes. Parce qu'à l'époque, là aussi, il y avait beaucoup de sexisme. Puis quand on dit que Freud était misogyne, c'est un point de vue, mais en fait, concrètement, il a inclus des femmes dans son cercle intellectuel, alors que les femmes n'avaient pas beaucoup d'espace dans la vie intellectuelle à l'époque. Il y a eu des patientes femmes, Sadophie, c'est une fille, c'est sa fille. Donc, pour quelqu'un qui est super misogyne, je sais pas. Je suis pas sûre là, que ce soit exact. C'est quelqu'un, puis il le disait lui-même aussi, que ses théories, parce qu'on parle de l'inconscient, il disait qu'il avait insufflé la troisième gifle au narcissisme de l'humanité. Première étant que la démonstration que la Terre est pas au centre de l'univers. Ensuite, Darwin avec l'homme des sangs du singe. Puis lui, en disant que la plupart de nos comportements sont déterminés par notre inconscient. C'est sûr que ça déstabilise beaucoup de gens, puis ça peut insécuriser beaucoup de gens aussi.
En effet.
On aime mieux penser qu'on est en contrôle de tout ça. Mm. Donc, d'aborder puis d'apprendre sur la psychanalyse, c'est jouer avec l'idée qu'il y a une partie de nous qui nous échappe. Puis à son époque, il a dit des choses qui passaient pas, là, que les enfants ont une sexualité, qu'on porte tous un peu d'homosexualité, que c'est pas une perversion, que les femmes ont le droit d'avoir du plaisir sexuel. Personne s'énerve quand quelqu'un dit ça. Et il s'est fait lancer des tomates. Ben, c'est ça, je l'aime pour plusieurs raisons. Il est très critiqué sans avoir été lu aussi. J'ai jamais vu ça, en fait, autant pour un auteur. Là.
Il y a beaucoup d'influence sur les autres, autant pour la critique, autant que pour des recherches.
Oh, clairement. Puis je pense que ça fait partie des grandes figures mythiques. Là. En fait, il nous échappe, mais tout le monde a un peu son Freud. Puis en fait, quand quelqu'un me parle de Freud, j'ai pas tant l'impression qu'il me parle tant de Freud que de lui-même. Donc, de toutes les projections qu'il fait sur cette figure mythique-là.
C'est vrai.
Donc, c'est ce que je dirais pour de Freud.
C'est bon, merci. Pour faire un lien avec vos études universitaires,
oui.
Vous avez fait une thèse sur les théories freudiennes. Pouvez-vous m'expliquer quel était le but de cette thèse-là et puis vous en avez conclu quoi?
Oui, en fait, moi, ce qui m'intéressait, mais ce qui m'intéresse toujours, c'est les liens entre la psychologie, la psychanalyse et l'art. Donc, je me suis intéressée à l'impact de certains personnages marquants sur l'identité et la personnalité des acteurs. Donc, c'est une thèse qualitative avec un échantillonnage au jugé. Il n'y a aucune prétention de dire « voici, ça arrive dans 76%, pas du tout. » C'est plutôt de décrire un phénomène de confusion identitaire entre un personnage et un acteur. Et donc, pour décrire ça, donc évidemment j'ai fait des entrevues, j'ai fait l'analyse de ces entrevues-là, donc c'est beaucoup de matériel, beaucoup, j'ai vu les acteurs à plusieurs reprises, j'en ai 4, pour un total de 26 entrevues qui durent en moyenne 90 minutes.
Quand même, c'est beaucoup de travail.
Beaucoup de matériel, et la lecture pour aller chercher tout le maximum de matériel inconscient, mon directeur et moi on a pensé que les théories psychanalytiques étaient les plus appropriées. Que tu posais la question sur la contribution de Freud à la psychologie tantôt, je vais faire un lien avec ma thèse, c'est que il y a plusieurs écoles en psycho, on les enseigne d'ailleurs ici, mais la psychanalyse, c'est celle qui nous permet d'aller le plus en profondeur possible dans l'explication puis dans la lecture de la psyché humaine.
Donc dans ce domaine-là, ça vous a plus facilité l'écriture de votre thèse?
Oui, puis si je peux me permettre un lien avec mes études collégiales,
oui,
c'est ici, au cégep, dans mes cours de psycho. Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai eu la piqûre puis la curiosité pour la psychanalyse ici. Puis ce que j'espère humblement, c'est de stimuler cette curiosité-là chez mes élèves aussi.
De faire des générations en génération.
Oui. Puis que ce soit un intérêt pour une analyse en profondeur la plus rigoureuse possible. Que Freud était très obsédé par la rigueur aussi.
Donc, en parlant d'intérêt, vous avez voyagé en Autriche.
Oui.
Donc, j'aimerais ça savoir, est-ce que vous avez économisé longtemps pour faire ce voyage ou est-ce qu'il était organisé réalisé en groupe? Est-ce que c'était à cause de votre thèse que vous avez voyagé là-bas? Puis c'était une durée de combien de temps? Décrivez-moi là.
J'étais étudiante à la première année à la maîtrise. La seule raison, en fait, qui m'amenait en Autriche, moi, c'était ma motivation, c'était d'aller voir le 19 Bergas. C'était ça. Ça a été un moment très émouvant. C'est un voyage de 5 semaines.
OK, quand même.
Je suis allée plusieurs fois au 19 Bergas. Je suis allée au moins 3 ou 4 fois. Puis c'est ça. Puis oui, j'ai travaillé longtemps. Je travaillais comme intervenante dans une ressource communautaire liée à un hôpital psychiatrique à ce moment-là, avec des schizophrènes. Puis pour moi, là, c'était un grand moment. C'était pas un voyage de groupe. C'était moi qui avais besoin d'aller voir ce lieu-là parce que je suis un peu comme ça. Je suis passionnée par le voyage. Puis j'aime bien aller dans un endroit puis m'en imprégner, essayer de m'imaginer comment les gens vivaient à l'époque, à quoi ils pensaient. J'étais dans la rue de Freud, puis je me disais, bon, ben, qu'à l'époque, il y avait un café, là.
Visualiser.
Oui, je fais beaucoup ça. Je suis très émue dans ces lieux-là. Puis j'essaie vraiment de m'imaginer. C'est un peu le travail d'un psychologue aussi, hein. Mm. Essayer de se mettre dans la place de l'autre pour le comprendre.
Vous retenez donc beaucoup de beaux souvenirs de ce voyage-là,
oui.
Ça doit.
Oh oui.
Puis,
c'est magnifique.
La culture que vous avez acquise aussi beaucoup.
Mm-hmm.
Vous avez sûrement visité plusieurs musées.
Oui.
Vous avez visité aussi la maison de Freud. Pouvez-vous m'expliquer comment elle était faite?
Oui, ben aujourd'hui, c'est un musée qu'on peut visiter. Les Freud vivaient sur 2 étages, dans un bel édifice en marbre. Non, je ne sais pas si c'est de marbre. La pierre blanche, en tout cas. Très, très austro.
Ça fait riche, oui.
Quelque chose de digne, imposant. De rectiligne, de droit, dans Vienne, là, c'est une ville très propre. On sent, on sent l'Empire austro-hongrois. Puis, le premier étage était privé. Pardon, non, public. Le deuxième était privé. Et Freud avait installé son bureau d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y avait une salle d'attente qui donnait sur sa salle de thérapie. Il y avait un bureau dans lequel il faisait ses notes puis qui écrivait ses textes, ses articles, ses livres. Puis dans la salle de thérapie, là où il y a le fameux divan, il y avait une autre porte qui donnait sur un corridor qui permettait en fait à la personne qui venait de terminer sa séance avec lui de ne pas croiser la personne suivante. Puis pour Freud, c'était important parce que, comme je mentionnais tantôt, ses clientes, mais ses clients aussi, il y avait des hommes. C'était nouveau. Aujourd'hui, aller voir son psy, ça peut être émouvant les premières fois, là, entre autres, là, on va chez son psy, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ben, à l'époque, les gens savaient encore moins, il n'y avait pas d'autres points de repère. Les gens voulaient conserver, en fait, protéger leur identité, donc ça permettait aux gens de ne pas se
croiser. De ne pas avoir de contact avec d'autres clients,
oui,
seulement avec le psychologue. En effet.
Aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a plus cet espace-là là, pour empêcher les gens de se croiser.
Donc, vous, dans votre bureau de psychologie en privé, est-ce que vous utilisez cette manière-là ou
non,
comme vous dites...
mais par contre, j'essaie d'appliquer ces principes parce qu'aujourd'hui, okay. dans les bureaux privés, souvent, les salles d'attente sont partagées par plusieurs professionnels. Mm-hmm. Mais j'essaie d'appliquer ces principes dans le sens où je ne vais pas nommer le nom de mes clients quand je vais les chercher dans la salle d'attente. Quand la porte est ouverte, évidemment, je nomme plus d'informations au cas où quelqu'un dans la salle d'attente pourrait entendre.
Ça préserve un peu l'anonymat du client, puis il se sent plus privilégié un petit peu, plus sécure aussi.
Oui, puis je pose une question un peu étrange lors de la première rencontre avec mes clients. Je leur demande qu'advenant dans le cas où on se croisait dans un lieu public, est-ce qu'on se dit bonjour ou pas? Donc souvent, ils sont un peu surpris. Mais je dis, parce que si vous êtes avec quelqu'un puis que la personne ne sait pas que vous voyez un psychologue, ben... Alors, je suis certaine que mon dentiste pose pas ces questions. Je dirais, jusqu'à présent, j'ai touché du bois, là, tout le monde m'a dit, oh, oui, y a pas de problème, je suis pas gênée de dire que je vois un psy.
C'est encore un sujet un peu tabou aujourd'hui, quand même.
Autant dans certains milieux, c'est très mal vu, autant dans d'autres, c'est très bien vu de voir son psy. On a encore un petit peu de travail de sensibilisation à faire, je suppose.
Donc, pour conclure, j'aimerais savoir, dites-moi quel lien nous pouvons faire avec Sigmund Freud et l'Autriche.
C'est peut-être un peu étrange ce que je vais dire. Freud est d'origine juive. Il vient d'une famille pauvre, puis il arrive à Vienne. Et Vienne est très, comment je pourrais dire, disposée à ne pas aider les gens d'origine juive à se développer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue économique. Freud a rêvé toute sa vie d'être prof à l'université, d'être reconnu comme tel. Ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est juste parce qu'il est juif? Dur à dire. Il y a des débats là-dessus. Il a eu très peur que la psychanalyse soit considérée comme une science juive et qu'elle soit pas reconnue. Puis en même temps, je peux pas m'empêcher d'essayer d'appliquer ses propres théories à lui-même. C'est-à-dire que oui, il y a eu des obstacles. On a brûlé ses livres devant sa maison. La croix gammée a été affichée au-dessus de sa porte. Il y a des sœurs qui sont décédées dans les camps de concentration. Et si ça n'avait pas été de la communauté scientifique internationale qui surveillait, il aurait peut-être été amené lui aussi. Là. Et l'intervention de Marie Bonaparte qui amené lui aussi. Là. Anna avait été arrêtée par la Gestapo aussi. Donc, le danger était là, était réel. Puis d'ailleurs, Freud a eu deux mots d'esprit. Il aimait beaucoup le sens de l'humour, puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je le pense. Quand ils ont brûlé les livres devant chez lui, il a dit, ben, ils sont quand même évolués. À une certaine époque, c'est moi qu'ils auraient brûlé. Puis quand il s'est fait arrêter par la Gestapo, puis on lui a fait signer un papier disant qu'il avait été bien traité, on peut douter que c'est pas le cas parce qu'il a rajouté au-dessus de sa signature, je recommande chaleureusement la Gestapo à tous. Donc, c'est une forme d'humour intelligent. Il dit, qu'il vient dire, oh, je l'adore, enfin.
Mais pour... Croyez-vous que, dans le fond, il amène un renom à l'Autriche, une nouvelle vision?
Oui, c'est pas la superstar peut-être de l'Autriche, là. Surtout à Vienne, Mozart est partout, Sissi est partout.
En effet, la musique classique...
Partout. Bon, les pâtisseries viennoises aussi sont partout. Les cafés viennois sont...
Vous avez eu le temps de...
J'ai eu le temps d'en apprécier quelques-uns. M'imprégner de la ville. Mais Freud, c'est certainement un Autrichien célèbre. Puis il aura un jour amené une jeune étudiante en Autriche parce qu'il était natif de là.
Donc, merci beaucoup pour avoir prêté de votre temps.
Ça me fait plaisir.
Pour cette entrevue. Ce fut un plaisir d'apprendre toute, dans le fond, l'histoire sur Freud et les théories freudiennes et d'en apprendre aussi sur vous, votre voyage et sur votre thèse, vos études que vous avez faites. Je vous remercie vraiment beaucoup.
Merci.